Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À chaque époque, son corbeau, vous savez, cet animal qui vole parfois dans nos villes, noir, peu attirant, anxiogène. À chaque époque, en effet, sa maladie. Et pour la nôtre, le cancer fait bien office de cet oiseau de mauvais augure. Face au cancer, on espère toujours que l'oiseau va se poser loin de chez nous, très loin même. Mais avec près de 400 000 nouveaux cas par an, la maladie fond parfois sur nous comme une proie et bouleverse nos vies à jamais. Mais face à ce corbeau, l'Esprit Saint a suscité, comme dans toute belle fable, un autre personnage, ou plutôt un pèlerinage. Lourdes, cancer, espérance, un pèlerinage surnommé à Lourdes, le pèlerinage sourire. Cette émission Vivante Église ce matin, donc à la découverte de Lourdes, cancer, espérance. On avait fait une émission, j'imagine que Sabine Caz en a fait beaucoup au long des années où elle a officié dans cette radio. On avait fait une ensemble, je crois, il y a 4 ou 5 ans. Autour du plateau, il y a du monde aujourd'hui. On va commencer par Marie-Claude Aspuria. Vous êtes présidente de Lourdes, cancer, espérance et vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Michel Pagès, vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse et aumônier national de Lourdes Cancer Espérance. Bonjour.
Bonjour.
Hélène Serloten, vous êtes déléguée Haute-Garonne Ariège. Bonjour.
Bonjour.
Et Anne, vous êtes membre de LCE. Bonjour.
Bonjour.
Et Brigitte Valade, vous êtes membre de LCE et responsable des aumôneries, par ailleurs responsable des aumôneries d'hôpitaux pour le diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être tous autour du plateau. Alors, beaucoup de choses à se dire au long de cette émission. Je commencerai tout simplement par rebondir sur mon introduction avec vous, Marie-Claude Aspuria. Le cancer, je lisais en préparant cette émission, il fut un temps, et vous allez nous raconter ça, où il était tabou de parler du cancer. Et aujourd'hui, cette maladie fait peur quand même à beaucoup. On a l'impression que c'est un peu l'oiseau de mauvais augure. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette courte introduction ?
Tout à fait. Il y a 34 ans, on était moins informés. Et comme il y avait beaucoup de décès, on pensait que le cancer était inévitablement amené à la mort. Et puis quelqu'un a eu l'idée, qui avait justement souffert de ne pas pouvoir communiquer de sa maladie, a eu l'idée de créer ce pèlerinage. Et la particularité, c'est que c'est un pèlerinage qui a été créé d'abord depuis Lourdes, mais surtout il a été créé par des malades pour des malades. Voilà.
Alors, vous en venez tout de suite à l'histoire, donc allons-y, lançons-nous et racontons l'histoire de Lourdes Cancer Espérance. Lourdes Cancer Espérance est donc née autour d'un homme, Jean-Claude Bruel. C'était donc en 1986, si je ne me trompe pas, il y a un peu plus de 30 ans. Qui était cet homme et quelle était un peu son histoire avant qu'on voit ce qui est né à partir de lui ?
La première chose qui a été créée, c'est une association, 1985. Et cette association avait été créée pour créer le pèlerinage. Jean-Claude Bruel était une personne qui était du Tarn et qui avait eu un cancer du cerveau. Et il regrettait de ne pas pu communiquer au sujet de sa maladie. Il suivait les pèlerinages diocésains, qui étaient très bien, je ne veux pas critiquer, mais il était tout seul, voilà. Alors il a eu l'idée, avec quelques lourdais hospitaliers, de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, de créer ce pèlerinage. Premier pèlerinage, même pas 400 personnes.
Premier pèlerinage, 1986 pour le coup,
86, c'est ça, exactement. 400 personnes, même pas. Comment c'est fait ? Alors on a essayé de faire la publicité, ça n'a pas marché. Et ça a été le bouche à oreille. C'est ce qu'avaient vécu les premiers pèlerins. Ils l'ont raconté en rentrant chez eux, en rentrant dans les hôpitaux, pendant des séances de chimio. Ils disaient qu'à Lourdes, il s'était passé quelque chose. On avait enfin pu parler de notre maladie.
Voilà, c'est ça. C'est la question que j'allais vous poser, c'est quel était en fait le besoin. Le besoin, c'était de pouvoir se dire tout simplement qu'on était malade et en parler et arrêter justement de cacher ça sous le tapis, d'avoir honte, de pouvoir tout simplement trouver des gens qui traversent les mêmes choses.
Voilà, c'est pouvoir s'exprimer. Et puis, on s'est rendu compte que l'expérience des uns aidait les autres. Parce que chacun ne le vit pas de la même façon. D'abord, il y a la gravité de la maladie, il y a la famille, il y a l'âge aussi. Bon, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et nous, nous rassemblons tout ça et nous formons une grande famille.
Alors Lourdes Cancer Espérance, donc c'est une grande famille, il y a quelques chiffres à citer. Mais donc 1986, oui. Il y avait 350 personnes à ce pèlerinage. En 2010, j'ai vu qu'il y en avait 5500 et aujourd'hui, il y aurait près de 9000 adhérents. La maladie aussi, je voulais citer un ou deux chiffres. Il ne s'agit pas de faire peur, mais quand même, ça met, on va dire, la réalité en face des yeux. Le cancer, c'est près de 400 000 nouveaux cas par an. On va dire pas la moitié, mais presque des personnes décèdent. Évidemment, il y a cancer et cancer. Hein. Je notais par exemple celui de la thyroïde, dans 98% des cas, on s'en sort bien. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus fatales, comme le cancer du pancréas. Lourdes Cancer Espérance, qu'est-ce que vous diriez de son développement ? Ça a été un développement, on va dire, au fil de la maladie. Aujourd'hui, c'est même dans le monde entier. J'ai vu qu'il y avait d'autres pays qui se joignaient à votre délégation.
La Belgique, la Suisse et Monaco, qui font partie de notre association. Nous avons 75 délégués et nous sommes représentés dans 86 départements. Alors, le pèlerinage, c'est l'apothéose, si je peux dire. Mais toute l'année, il y a une préparation, il y a une vie qui se passe à LCE, parce que les malades se réunissent, ils parlent entre eux. Quand il y a un décès, l'association est là. C'est vraiment quelque chose de merveilleux.
Père Pagès, vous êtes donc vous l'aumônier national de Lourdes Cancer Espérance. C'est pareil, quand on lit, quand on survole ce pèlerinage, je suis retombé sur un article dans le journal La Croix, il a des surnoms, le pèlerinage donc du sourire. J'ai même trouvé une autre expression qui va me revenir, qui laisse entendre que oui, ce pèlerinage est un soleil dans la vie des malades. Comment vous diriez, ça n'est pas un pèlerinage comme les autres? On imagine que c'est un pèlerinage où on touche du doigt de manière particulièrement aiguë, l'enjeu d'une vie et puis ce qui peut se jouer à Lourdes aussi.
Notre présidente vient de parler, mais c'est vrai que c'est les Lourdais eux-mêmes qui, voyant la réalité de ce pèlerinage, l'ont appelé le pèlerinage du sourire. Mais ça dit long de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on s'attendait à voir des tristes mines ou des tristes figures et ils ont vu quelque chose qui se passait. Un fait, une réalité qui les surprenait. Ils ont appelé le pèlerinage du rosaire la semaine du blanc. C'est plein d'humour de la part des gens de Lourdes.
Parce qu'il y a des dominicains
partout dans la ville. Parce qu'ils ont l'habit blanc, voilà, c'est plein d'humour. Mais tout ça pour mettre en exergue cette appellation que nous a collée. Mais parce que nous ne l'avons pas demandé. Ils ont vu la réalité d'un pèlerinage qui se déployait et qu'il y avait une réalité de fraternité et de prière. Et là, je pense que l'aumônier qui vous parle peut dire ça. C'est-à-dire que face à la réalité, c'est un peu la phrase qui nous accompagne à LCE tout au long de ces années, c'est face à la réalité du cancer qui est quand même multiforme et forte, plus forte que jamais, on ne peut pas la confondre avec toute réalité de maladie, tout à fait. Et ben, les pionniers ont dit, nous avons voulu donner le visage de la fraternité et de la prière. Ces deux visages qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire la réalité d'un soutien, d'une présence humble, concrète, mais réelle, et puis la prière. Alors, pour le coup, c'est l'autre facette. Nous sommes une association loi 1901 avec un visage sociétal tout à fait reconnu, avec un label d'intérêt général que
oui,
la société...
J'allais venir, ouais, je voudrais poser une question là-dessus d'ailleurs, mais allez-y, continuez.
Voilà, ce label nous a été donné là aussi. Mais il y a une réalité ecclésiale qui fait qu'on appartient à l'Église universelle, association canonique de fidèles. Et moi, je suis nommé par la conférence des évêques avec l'accord de mon archevêque. Mais c'est cette idée qu'on appartient à la grande Église.
Marie-Claude Aspuria, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un label d'intérêt général et quand est-ce que l'association a reçu ce label ?
On l'a très vite reçu, c'est-à-dire qu'il nous permettait à ce moment-là, enfin même maintenant, de pouvoir déduire les dons de nos impôts, voilà. C'est un petit peu comme ça s'est passé pour les Restos du Cœur. C'est un label auquel on tient. Puis comme dit le père Pagès, nous sommes aussi reconnus association canonique de fidèles. Ça, c'est très très important. On est reconnus des deux côtés, si je peux dire ainsi.
J'ai même vu que récemment, vous aviez reçu une médaille à la ville de Lourdes, non ?
La ville de Lourdes,
Madame
il y a deux ans.
Madame la maire, racontez-nous.
Oui. C'est-à-dire, il y a plus que ça, c'était pour les 30 ans de notre association, parce que l'année prochaine, nous fêterons les 35 ans. Nous avons reçu la médaille, oui. Madame le maire nous a toujours soutenus. Les Lourdes aussi nous ont toujours soutenus. Bon, Madame le maire aussi a été touchée, puisqu'elle a perdu son fils et son mari d'un cancer. Et je peux dire qu'on est toujours très agréablement, très bien reçus. ça a été un petit peu la reconnaissance de notre association. Les Lourdes jouent le jeu parce que avant le pèlerinage, nous distribuons des ballons blancs et verts, sont notre couleur, et les boutiques sont décorées. C'est vraiment une fête qui arrive à Lourdes. Alors, il faut pas se leurrer, il y a de très très grands malades cette année, il y a de grands malades. Il y a même des malades en fin de vie. Certains, il n'y a pas tellement de décès, mais je crois que les personnes qui meurent sont apaisées, qui meurent à Lourdes, sont apaisées.
Alors, Marie-Claude Aspuré, avant qu'on fasse une première pause et puis qu'on plonge dans ce qui fait le cœur de Lourdes Cancer Espérance, en tout cas du chemin qu'on essaye d'y vivre, que l'on soit malade ou pas, racontez-nous un peu le maillage territorial, parce que pour vous, c'est votre quotidien, mais je pense qu'il y a bien des gens qui ne soupçonnent pas cette réalité, cette possibilité d'accompagnement. Quand on va sur votre site internet, on a l'impression, alors je ne suis pas allé dans le détail, qu'il y a presque une délégation par département. Est-ce que c'est le cas? Comment vous y prenez pour être au plus près des malades et de leurs familles?
Oui, je vous disais tout à l'heure, 75 délégués qui couvrent 86 départements. Comment ont été créées les délégations? C'est-à-dire qu'après le pèlerinage, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas laisser ces gens toute l'année comme ça. Il fallait qu'il y ait un lien, parce qu'ils étaient pleins d'espérance, pleins d'espoir. Alors les délégations ont été créées. Il y en a certaines qui existent depuis 34 ans et qui seront là 35e anniversaire l'année prochaine. Donc c'est une famille dans la famille, si je peux dire.
Qu'est-ce qu'on y fait dans ces délégations?
Quel type d'accompagnement
réunions, de soutien?
Voilà, alors il y a des réunions, il y a une messe quelquefois tous les mois, tous les deux mois. Il y a des rapprochements dès qu'il y a un problème, quand il y a une rechute, quand il y a une annonce de la maladie, a fortiori quand il y a un décès. La famille LCE est là avec... qui soutient. Il y a la visite des malades dans les hôpitaux, il y a la visite des malades quand ils rentrent chez eux, ce qui est le plus important, qui est très important.
Des journées d'amitié aussi, j'ai vu.
Oui, des journées d'amitié, voilà.
Père Pagès, avant qu'on fasse une première pause, comment vous définiriez un petit peu le rôle des antennes locales? C'est quoi? On est là avec délicatesse, mais on est présent si besoin. Les familles peuvent nous appeler, en fait, pour quel type de présence et d'accompagnement?
Je crois qu'à l'inverse de beaucoup de réalités de pèlerinage qui...
Là, je parle des délégations locales.
Oui, oui, bien sûr, j'entends. Mais à l'inverse de l'arrêté des pèlerinages, nous vivons quelque chose avant et après. Voilà. Et le pèlerinage, comme disait la présidente, est un temps fort. Du coup, ça met en exergue cette idée que nous nous soutenons au quotidien. Et que je pense que ce visage, c'est un visage d'église. C'est-à-dire qu'on est dans le quotidien, on est dans l'événement, on est dans les circonstances, et les délégations, les délégués le savent, les circonstances d'une vie locale où les adhérents ont le droit et on y répond comme on peut. On n'est pas des pros, on est des serviteurs d'une réalité, mais de fait, ça nous renvoie au local, au fait d'être présent. Et ça nous spécifie aussi pas mal. C'est-à-dire que le pèlerinage devient du coup, et d'autant plus, un temps fort. Et il nous renvoie chez nous pour continuer quelque chose et vivre chez nous.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les familles vous appellent et puis vous pouvez aller visiter les gens, vous qui êtes aumônier, à domicile. Les membres de l'association vont dans les hôpitaux, comme font parfois des aumôniers d'hôpitaux.
Alors, c'est pas seulement les aumôniers, c'est d'abord les délégués qui ont un rôle de coordination, de savoir qui a besoin de quoi. Et chaque adhérent, normalement, porte le souci d'aller se visiter. Voyez. Alors, c'est plus ou moins vrai, c'est plus ou moins... Voilà. Mais certains en portent plus que d'autres. Et aussi, en pleine santé, le souci d'aller visiter. Mais ça, de fait, c'est coordonné d'abord, et notre présidente le dit souvent, c'est par les piliers de notre association que sont les délégués. Parce qu'ils ont un rôle de coordination.
Allez, on va faire une première pause et puis on va donner entre autres la parole à notre délégué, en tout cas pour le diocèse donc de Haute-Garonne et de l'Ariège. C'est promis après cette première pause pour cette émission sur Lourdes Cancer Espérance. Thank you.
Emmanuel Pella.
À la découverte de Lourdes, Cancer, Espérance, c'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient. Nous sommes avec Marie-Claude Aspurua, qui est présidente de Lourdes, Cancer, Espérance, donc pour la Haute-Garonne et l'Ariège, le père Michel Pagès, qui est son aumônier national et local. Hélène Serloton, déléguée Haute-Garonne, Ariège, le père Michel Pagès, aumônier national et local, donc Anne et Brigitte Valade, qui sont membres de LCE. Père Michel Pagès, et après, c'est promis, je vous donnerai la parole, Hélène Serloton. Il y a quelque temps, le pape François avait déclaré une année de la miséricorde pour nous aider à découvrir les œuvres de miséricorde. Et souvent, il nous remet cette réalité en face des yeux, nous laissant entendre que c'est bien joli d'avoir une vie chrétienne, mais que le but, c'est de pratiquer ces œuvres de miséricorde. LCE, n'est-ce pas, par excellence, une œuvre de miséricorde, l'accompagnement, la visite des malades. Parlez-nous de cette réalité, une œuvre de miséricorde.
Il y a un célèbre tableau du Caravage qui montre les œuvres de miséricorde magnifiques et qui montre sur le même tableau ce visage d'une personne penchée sur une personne souffrante, fragilisée. Et je pense que c'est ça la miséricorde, c'est miserere corde, notre misère dans le cœur de Dieu d'abord, mais dans notre propre cœur. Comment on peut être instrument de cette bienveillance, pour parler plus large aussi. Et je pense qu'à LCE, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un défi particulier, un défi spécifique et majeur dans nos sociétés. Et on a voulu, l'association donne un visage d'accompagnement, on rejoint la miséricorde. Être avec, cheminer en vue d'une espérance. Et là, on touche le mot qui fait partie de notre label, Lourdes, Cancer, Espérance. En vue d'une espérance. Et on est témoin au pèlerinage et dans les délégations, mais d'autres parleront mieux que moi tout à l'heure, mais l'idée qu'il y a quelque chose d'une lumière, vous savez, l'espérance, cette petite lumière qu'on voit au bout, on est dans la nuit, mais on sait vers quoi on va marcher. Et quelque chose va s'éclairer. Et beaucoup de témoins, Anne nous le dira sûrement tout à l'heure, beaucoup d'adhérents témoignent de ça. C'est que j'ai vu à l'intérieur de ma maladie et de mon défi, j'ai vu quelque chose d'une petite lumière.
Hélène Serloton, est-ce que c'est votre rôle de déléguer quelque part, de prendre on va dire, les gens par la main, ou en tout cas d'être à côté d'eux pour passer on va dire, de la stupeur de la maladie à petit à petit essayer de relever la tête et d'essayer de voir un peu ce bout du tunnel,
cette
lumière ?
Oui, tout à fait. C'est un rôle qui nous revient. L'important, c'est de dire que nous sommes avec. Nous sommes la délégation, l'équipe et moi-même, le père bien sûr, nous sommes avec le malade. Donc l'important c'est qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. Voilà, on ne peut rien faire, on ne change rien à la situation. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. On est là pour dire je suis avec toi, j'ai pensé à toi et j'ai prié pour toi.
Donc c'est ce que disait le père Pagès, hein. Deux piliers, la proximité fraternelle et l'accompagnement spirituel. C'est vraiment deux pieds sur lesquels
absolument.
Deux pieds inséparables.
Totalement inséparables.
Alors vous, Hélène Serloton, juste, vous pouvez dire un petit mot de la manière dont vous y êtes venue, parce que je crois qu'on vous a interpellé
alors moi,
gentiment
c'est
fermement.
Non, peut-être, je ne sais pas. C'est le Saint-Esprit qui a certainement fait beaucoup de choses. J'ai connu la maladie, j'ai connu Lourdes Cancer Espérance par le père Pagès lorsqu'il est arrivé curé de la paroisse Saint-Joseph.
Donc à Toulouse, oui.
À Toulouse, je suis sa paroissienne. Et bon, c'est mon histoire, je vais être brève. Je suis atteinte d'un lymphome depuis 13 ans. Même un peu plus, et ce lymphome, cette maladie m'a laissé tranquille 13 ans. Je n'avais que un ou deux contrôles par an. Et en 2016, au moment où le père Michel a pris ses fonctions, mon hématologue a choisi pour moi un traitement classique de chimiothérapie. Bon, ça a été un bouleversement dans ma vie, parce qu'il ne faut pas oublier, le cancer reste un choc. Hein, ça bouleverse un couple, ça bouleverse une famille. Et bon, le malade peut passer par tous les stades.
Vous disiez que vous aviez mis 10 ans aussi avant de.
Moi, j'ai mis 10 ans avant de pouvoir en parler. Mais c'était facile parce que je n'avais pas de traitement. Donc je l'occultais complètement.
Alors cet appel après à prendre la responsabilité de cette délégation.
Alors, lorsque j'ai eu mon traitement, j'ai eu la chance ou la grâce de n'avoir... J'ai eu un protocole de, classique de chimiothérapie, 12 séances sur 2 jours, toutes les 3 semaines, sur 5 mois. Et j'ai eu la chance, ce traitement s'est très bien passé. J'ai eu 0 effet secondaire. Donc ça, ça m'a quand même bouleversée, ça m'a interpellée. C'était certainement pas un miracle, mais c'était quand même un cadeau. Et ce cadeau, j'ai eu envie de le rendre, et de le rendre à ceux qui étaient plus fragiles et plus atteints que moi. Voilà. Et j'ai pu le faire parce que je connais le combat. Je sais ce que c'est que d'avoir, de ne pas avoir envie de prendre rendez-vous, de ne pas vouloir faire les analyses, d'être incapable soi-même de les lire et de la trouille que l'on ressent dans les salles d'attente d'oncologie. Et cela m'aide beaucoup
au quotidien, pour accompagner
au quotidien auprès de mes malades.
Père Michel Pagès, le thème, donc, c'est « Heureux les pauvres », cette année du cancer, c'est bien de l'autre cancer Espérance, c'est ça ?
Oui, la réalité de cette béatitude. Mais nous avons choisi avec LCE et toute l'équipe liturgique, il y a un staff national et une équipe liturgique qui travaille tout au long de l'année pour préparer ce pèlerinage. Nous avons choisi une phrase de Bernadette, parce que pour nous, elle a la proximité de Lourdes. C'est parce que j'étais la plus pauvre, la plus ignorante que la Vierge m'a choisie. Donc c'est un renvoi à cette béatitude, heureux les pauvres. Mais parce que nous avons, et nous le conjuguerons comme ça, mais je le fais très rapide, parce que la pauvreté, c'est d'abord quelque chose à combattre. Et la réalité d'une maladie, et comme le cancer, c'est d'abord quelque chose à combattre. Puis ensuite, on comprend que Dieu dit quelque chose là-dedans. Et puis, on arrive peut-être à une forme d'action de grâce. Et on repart différent. C'est le cheminement qu'on va faire cette année au pèlerinage. Mais c'est le cheminement qui, et on a voulu le construire ainsi, cette béatitude nous renvoie tous à ce cheminement, à ces étapes.
Alors vous laissez entendre aussi dans un petit de texte que vous avez la gentillesse de me faire suivre, qu'il y a quelque chose de la grâce de Lourdes aussi dans ce lieu. Vous dites à un moment aussi que vous avez été vous-même, je crois, brancardier dans vos jeunes années, et qu'à un moment, à un instant de votre vie ou au fil d'un de vos services, vous aviez vraiment compris que Lourdes est ce lieu où le monde est renversé et que ça n'est pas sans lien avec ce qui se vit à Lourdes Cancer Espérance. Expliquez-nous.
J'ose dire que les balbutiements de ma vocation sacerdotale d'Alles sont nés à Lourdes, ont été vécus à Lourdes. Et j'ai compris, ayant reçu beaucoup de choses dans ma famille, et après une certaine révolte, j'ai compris, comme étudiant, avec mes premières bretelles de brancardier, comme on dit parfois, j'ai compris à Lourdes le monde renversé que vous évoquez.
Alors qu'est-ce que c'est que ce monde renversé ?
C'est la réalité des béatitudes, justement. C'est-à-dire, heureux les pauvres, personne ne dit ça spontanément. On ne dit pas heureux les pauvres. Et quand Jésus dit ça, c'est qu'il nous appelle à voir les choses autrement, à lire autrement des visages de pauvreté où il se cache quelque chose. Et moi, ce que j'ai compris, comme brancardier et jeune étudiant, j'ai compris que l'évangile, c'était ça, c'était concret. Pas seulement un catéchisme ou une aumônerie ou des scouts, c'était quelque chose que j'avais reçu. Mais là, j'étais en train de faire mien le fait qu'à Lourdes, les malades sont premiers servis. Et ça, je crois qu'à LCE, nous le vivons. C'est-à-dire qu'ils sont... Et c'était évoqué tout à l'heure dans les origines de l'association, c'est qu'on comprend que les pionniers, et dans ces pionniers, il y avait d'ailleurs la personne que vous avez évoquée, mais il y avait un prêtre, Tarné, le père Cross, qui a, comme prêtre, accompagné ces balbutiements, et il a bien vu qu'il se jouait quelque chose de l'évangile. Une espèce de renversement de situation qui, humainement, nous semble perdu, mais qui, lu chrétiennement, s'éclaire autrement.
Alors vous avez une phrase même, on va dire, culottée, enfin c'est comme ça peut-être qu'on peut la prendre de prime abord. Vous dites « la fragilité nous rapproche de Dieu ». C'est pareil, est-ce que vous pourriez expliciter ça et penser peut-être aux personnes malades qui nous écoutent, comment comprendre ? J'entends que cette partie d'émission, l'idée c'est de voir un petit peu le chemin spirituel aussi que vous proposez au sein de LCE, et par là même de laisser entrevoir auprès des auditeurs qui sont concernés de près ou de loin ce que vous pouvez vivre à LCE. La fragilité rapproche de Dieu.
Oui, c'est provoquant, mais parce que quelque part, la vie humaine, il y a une... nous vivons, quand on est en pleine santé, une forme, je mets les guillemets, mais d'orgueil de la vie. C'est-à-dire qu'on s'auto-suffit. On dit, j'assume, je fais comme je veux. Et puis dès que notre humanité, de fait fragile, mortelle, révèle un visage de limite, alors du coup, on se rebelle. Et le cheminement chrétien, et c'est ce que Jésus est venu faire et dire, et marquer de son empreinte dans cette humanité, c'est que c'est au cœur de ces visages de fragilité qu'il va révéler sa puissance. Voilà. C'est pas quand on a besoin de rien, que tout va bien, qu'il va pouvoir révéler sa puissance. Et que mystérieusement, c'est pas du tout une obligation, mais que mystérieusement, il révèle, on en parlait tout à l'heure entre nous, mais il y a des choses, des situations écrasantes par le cancer, évidemment, et par d'autres réalités humaines. On pense parfois, et j'ai vécu 8 ans dans les hôpitaux pour le savoir, mais la perte d'un enfant, quelque chose de terrible.
D'ailleurs, il y a au sein de l'eau Cancer Espérance un pèlerinage pour les enfants, c'est ça,
à l'intérieur? Il y a d'ailleurs aussi à l'intérieur du pèlerinage un pèlerinage d'enfants et d'adolescents et avec des fratries. Mais voilà, c'est au cœur de quelque chose qui semble nous accabler qu'on est appauvri. On se découvre appauvri et accablé, impuissant, fragilisé. Et on n'aime pas ça. Et il y a quelque chose du message de Jésus là qui nous rejoint. Voilà. C'est pas un slogan, c'est pas quelque chose qui écrase, c'est un appel de Jésus qui nous dit mais est-ce que tu peux entendre que je suis ton sauveur, que je suis là à la dans la réalité de ta vie, mais d'autres le diront mieux que moi.
Ou autrement, Brigitte Valade, vous êtes là comme membre de LCE, mais vous êtes aussi par ailleurs donc responsable des aumôneries d'hôpitaux pour le diocèse de Toulouse. On peut, et j'essaye comme souvent dans cette émission de mettre à la place de ceux qui sont loin des réalités de la foi, ne pas arriver à dépasser le scandale apparent que peut-être ce que vient d'exposer le père Pagès, et finir par croire qu'en fait Dieu souhaite que l'on soit fragile, qu'on soit vulnérable, voire même qu'on soit parfois exposé à des drames. Est-ce que c'est une question qu'on vous renvoie à la figure parfois quand vous visitez dans les hôpitaux?
Oui, souvent. Je suis, à vrai dire, je reste aumônier attaché à l'hôpital Rangueil-Larrey. Et ce que vous dites fait partie des questions en effet récurrentes. Pourquoi je suis malade? Pourquoi moi? Pourquoi cette...
Est-ce que ce n'est pas une étape aussi normale de la maladie?
Je n'ai rien fait. On peut dire peut-être que c'est à la limite sain de se poser ces questions quelque part. Parce qu'elles font surgir des réalités qui après permettent un chemin au niveau spirituel peut-être de guérison plus facile, hein, de se les poser dès le départ. Donc oui, ce sont des questions très récurrentes. Nous n'avons pas... Personne n'a...
Il ne s'agit pas de répondre,
on imagine. Personne n'a les réponses. Oui. Personne n'a les réponses. Parce que la souffrance, elle est propre à chacun. On ne la mesure pas. Et on essaie bien simplement de pouvoir amener la personne à trouver soi-même ses réponses avec l'aide, voilà, de sa foi ou sans sa foi, avec l'aide d'un accompagnement.
J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu des guérisons, surtout quand on va à Lourdes, quand on est traversé comme ça par la maladie, comment ne pas vouloir être guéri, et a fortiori quand on a la foi et qu'on croit en la bonté de Dieu, en sa capacité d'agir. Je retrouvais des articles dans le journal La Croix justement sur la réalité du cancer, et un certain nombre de personnes laissent entendre qu'ils ont aussi un moment prié pour leur guérison. Il y a des miracles à Lourdes, hein. Il y a aussi de nombreuses guérisons inexpliquées. Père Pagès, est-ce que aussi Lourdes Cancer Espérance est un lieu où on peut prier et intercéder les uns pour les autres pour demander la guérison?
Absolument. Le mot guérison est légitime, guérir. Mais qu'est-ce que guérir? Souvent on dit, voilà, la santé, on parle de la santé, mais la santé, dans la tradition biblique, c'est le salut. Et que ce n'est pas que la santé du corps, c'est la santé de l'âme, c'est ce qui, à l'intime de l'être et de tout être, est en attente de quelque chose. Du coup, ce que disait Brigitte légitimement, c'est que on chemine au rythme et au pas des personnes et on n'a pas de solution, mais que notre rôle est quelque part humblement, dans les aumôneries sans doute et à LCE aussi, de leur permettre de faire leur propre chemin. Et que souvent ils le disent, mais j'aspire à une guérison. On l'entend, notre présidente en témoigne souvent à Lourdes, le mot qui revient c'est je voudrais guérir. Alors le chemin qu'ils font, c'est ça. On n'exclut pas du tout cette guérison.
Ça veut dire qu'on peut aussi vous appeler pour dire voilà, j'aimerais que LCE intercède pour ma guérison. C'est
bah, légitimement. Et nous prions pour ça. Voilà. Et il y a des guérisons. Il y a des guérisons à l'intime, dans le cœur, dans des forces nouvelles. On apprend aussi à voir que la guérison n'est pas qu'une guérison de tel type de cancer. Ça peut arriver. Et je dirais au passage, et que beaucoup de nos adhérents ont traversé plusieurs cancers, qu'ils en ont vaincu plusieurs, et que curieusement, aussi à l'inverse de beaucoup d'associations ou de pèlerinages qui accompagnent des malades, les mêmes qui ont été malades un temps deviennent les accompagnants un autre temps. Et là, on a quelque chose de très spécifique. C'est-à-dire qu'on peut être fragilisé un temps et accompagné un autre temps. C'est une forme de guérison.
Alors vous avez aussi une autre expression qui ne vous est pas propre, hein, que l'on dit parfois à propos de certaines épreuves, que la maladie peut être l'occasion d'une forme d'enfantement spirituel. On l'entend un peu au fil de votre intervention. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Vous avez une autre expression aussi, c'est l'occasion de découvrir que le visage que Dieu est venu inscrire dans nos vies, enfantement spirituel. On entend souvent dire que dans la vie spirituelle, il y a aussi comme une étape clé qui est le moment où on lâche prise. C'est ce fameux lâcher prise dont on entend beaucoup parler dans notre société, souvent dans des livres de psychologie. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, ce chemin, cet enfantement spirituel? Qu'est-ce que ça pourrait signifier?
La réalité forte que portent les chrétiens, c'est qu'on est tous enfants de Dieu. Qu'on est là, pas par hasard, et qu'on entend souvent ça, LCE, mais je ne suis rien, je ne vaux plus rien, quel sens a tout ça? Et si, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes appelés à la vie. Et on porte ce message, LCE, il y a un message croyant, au sens le plus large du terme. Mais ce que j'évoque dans l'enfantement spirituel, c'est cette idée que, souvent, la période d'un combat, d'une épreuve, nous rend capables. C'est pas en termes d'obligé, et chacun fait le cheminement qu'il veut, il y a de la révolte aussi. Mais nous rend capables de dire, mais au fond c'est vrai, je dois tenir la main de Dieu qui est Père. J'accepte, j'arrive à entrevoir que je suis pas seul, et que j'ai un Père, et que je suis fils et fille de Dieu. Donc se découvrir enfant, c'est se découvrir dans les mains d'un autre et confiant.
Voilà, et ça peut être ça peut être une forme de bascule spirituelle. Enfin, c'est une étape fondamentale quelque part dans la vie spirituelle que qu'offre la maladie. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça, ou est-ce que c'est un peu trop osé?
Vous l'évoquez en termes de démaîtrise, on ne maîtrise pas. Voilà. Et quelque part, on entend souvent chez personnes qui ont traversé des révoltes, et puis on emploie souvent aussi dans l'association le terme de combat, on se bat contre la réalité de ce mal. Mais vient un moment aussi où on s'abandonne, pas au sens de tout est perdu, on fait confiance. Voilà. Et ça, on ne l'impose pas, on le découvre chez certaines, plus ou moins. Mais c'est un peu ça, cette démaîtrise.
Allez, on va faire une deuxième pause, et puis on va avoir quelques histoires plus concrètes, même si Hélène Serloton nous a déjà ouvert une partie de son chemin. Après cette pause, Anne et Brigitte nous raconteront la manière dont elles vivent ou dont elles accompagnent cette réalité de la maladie.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
La découverte de Lourdes, Cancer, Espérance, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient autour du plateau. Hélène Serloten, vous êtes déléguée Haute-Garonne Ariège pour LCE, Lourdes, Cancer, Espérance, cette association qui accompagne les personnes malades. Michel Pagès, vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse, aumônier national de ce mouvement. Et Anne et Brigitte Valade sont avec nous membres de LCE. On va commencer avec vous, Anne. Vous êtes donc vous-même membre de LCE, vous allez participer à ce pèlerinage, et aujourd'hui, même si votre vie ne se résume pas à ça, vous êtes épouse, mère, grand-mère, vous êtes porteuse de cette maladie. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire ce que vous pouvez en tout cas nous en dire, comment ça se passe quand on apprend comme ça qu'on est malade?
On ne veut pas y croire. Il y a une période de déni et on a beaucoup de mal, comme le disait Hélène, à prononcer le mot cancer, qui fait peur, hein, qui signifie mort. Donc on a une période de déni et puis ensuite, forcé par les événements, on accepte. On accepte et on se bat et on accepte les traitements.
Alors vous, en l'occurrence, c'est un cancer
du sein.
Un cancer du sein.
Qui a été déclaré il y a 17 ans, 18 ans, oui. Et donc je suis suivie et soignée et je vis, voilà. Mais ce qui m'a aidée, bien sûr, dans ce combat, c'est ma foi.
Alors juste avant qu'on vienne à ce sujet, donc vous m'aviez dit que vous aviez eu donc le cancer du sein, vous étiez battue, la maladie avait été, on va dire, stoppée, et puis que vous avez eu une rechute, c'est ça, il y a cinq ans.
Et cette rechute est suivie aussi et maîtrisée pour l'instant. Donc je suis toujours bien sûr menacée.
Donc vous vous soignez, vous avez des traitements en chimiothérapie, c'est ça?
Non, j'ai une hormonothérapie. Donc je suis suivie et très bien soignée, heureusement. Et surtout accompagnée depuis le début par mes proches, ma famille, mes enfants, mes amis, et par ma prière et ma foi en Jésus, et surtout ma piété mariale. Voilà.
Quand on apprend comme ça qu'on est malade, en tout cas c'est ce qu'on pouvait lire dans un article du journal La Croix, la foi à l'épreuve de la maladie, il y a des témoignages qui sont vraiment saisissants. Hein. Un homme comme ça, Thibaut, qui a 29 ans, marié, papa de deux enfants, et qui dit, en tout cas quand il a appris sa maladie, j'ai vécu Pâques sans résurrection. Et puis il y a une autre personne qui dit la chose suivante, je me sentais coupable. Je me demandais si j'étais malade parce que, j'étais responsable de quelque chose. Est-ce que c'est aussi, et ça fait partie un peu des étapes, est-ce que vous, quelque part, c'est quelque chose que vous avez vécu à un moment?
Non, pas vraiment. Je me suis abandonnée, en fait, en me disant, bon, le Seigneur m'envoie cette épreuve, et bien, j'accepte. Voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir, justement, m'abandonner.
Mais vous avez dit, le Seigneur m'envoie cette épreuve?
Oui, je l'aime peut-être, oui.
D'accord. Ouais. Alors, à propos, on y reviendra peut-être, hein, est-ce que vous vous êtes senti comme Jean-Claude Bruel aussi, donc l'initiateur de ce pèlerinage, Lourdes Cancer Espérance, à avoir besoin rapidement de pouvoir parler en toute simplicité de la maladie et de trouver des gens, en fait, qui comprennent parce qu'eux-mêmes, ils ont traversé cette maladie? Est-ce que c'est ça qui vous a porté vers LCE?
Alors, ce qui m'a porté vers LCE, c'est mon amie Hélène qui m'a vivement conseillé de venir au pèlerinage. Et je n'avais pas du tout envie d'aller au pèlerinage.
Pourquoi?
LCE, que je connaissais de réputation depuis longtemps.
Parce que vous ne vouliez pas vous retrouver au milieu de d'autres malades, c'est
peur,
ça?
J'avais peur, hein. Je craignais de rencontrer d'autres malades et puis je craignais que cela me trouble trop. Et en réalité, ce que j'ai découvert à Lourdes a dépassé toutes mes espérances, car j'ai découvert évidemment de l'amitié, de la chaleur et de l'espérance. Voilà.
Hélène Serloten, est-ce que vous voulez réagir peut-être ou commenter?
Oui, me rappelle très bien quand je suis rentrée de mon premier pèlerinage, où je suis rentrée, j'étais rien du tout, j'étais pèlerin, et je suis rentrée de ce pèlerinage, mon mari conduisait, et je suis rentrée ravie, éblouie, transformée, me disant qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Ça a été après, pendant, jusqu'à ce que j'arrive délégué, jusqu'à ce qu'on me confie cette mission. J'avais la hantise jour et nuit de faire quelque chose pour LCE. Je ne savais pas du tout quoi, mais j'étais portée par cette idée, il fallait que je fasse quelque chose. Et dans la voiture de ce premier pèlerinage, je me rappelle très bien, Anne est une amie depuis plus de 30 ans, lui envoyer un texto, je rentre ravie, l'année prochaine c'est non négociable, tu viens avec moi.
Anne, quand vous regardez dans le rétroviseur et pensez à ceux qui nous écoutent, qui sont concernés de près ou de loin par cette maladie, qu'est-ce que d'avoir rencontré LCE, puisque on entend quand même que vous avez tout de suite, vous êtes tout de suite rentré dans une certaine confiance, dans un certain abandon.
Oui.
Vous étiez quand même entouré. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus ou d'autre de croiser sur votre route Lourdes Cancer Espérance et en l'occurrence Hélène Serloten?
Le partage, en fait. Le partage et être en toute liberté, pouvoir en toute liberté parler de ses angoisses, de ses inquiétudes, même de ses traitements. Donc il y a une grande amitié, en fait.
Vous pouvez prendre un exemple
de... Une grande confiance.
De conversations comme ça qu'on peut se permettre à LCE, qu'on ne peut pas se permettre ailleurs, c'est...
Non, on peut parler de nos angoisses, de nos inquiétudes, en toute simplicité. Parce qu'on se comprend, même quelquefois, même sans se parler. On vit tous les mêmes tourments, en fait. Et LCE donne un coup de fouet et permet donc, par cette grande amitié, cette grande complicité, de continuer à vivre. Et de continuer à vivre avec foi.
Père Michel Pagès, vous vouliez ajouter quelque chose, non? Ou alors peut-on rebondir quand même sur ce que disait Anne quand elle dit « c'est Dieu qui m'envoie une épreuve ». Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à préciser sur ce sujet?
Parce que ça sans doute. Sans doute, mais on peut entendre ce cri. C'est que quelque part on se dit « mais quand on est croyant, on se dit « mais est Dieu dans tout ça ?» Voilà. Ouais. Alors, et c'est contrasté selon sa foi, selon son parcours. C'est un moment où on peut se rebeller, et combien le font? Non, mais Dieu ne peut pas être là, et on le quitte, ou on l'oublie. Mais d'autres disent il y a quelque chose alors qui rejoint un aspect du cheminement biblique, c'est vrai que parfois Dieu nous met à l'épreuve, mais c'est vrai, on ne peut pas complètement le chasser.
On peut lire des passages dans l'Ancien Testament
absolument. Mais il ne faut pas en avoir peur. Mais la Bible est claire en disant que Dieu, comme un père, corrige ses enfants. Voilà. Et donc c'est pas du tout en termes de voilà de.
Il envoie pas des maladies pour corriger.
Non,
rassurez-moi.
Ne tombons pas là dedans. Mais voilà, il y a comme un père peut voilà. Et en tout cas, on rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette idée que quand on se découvre fragile ou fragilisé, il n'y a pas de statut de fragile. Et parfois on dit tel ou tel et ça arrive en termes de cancer. Oh, mais il est fragile, comme si on pouvait plus rien faire. Alors que, on dit souvent en pastoral santé, il est fragilisé. C'est un moment à traverser. Voilà. Et que, peut-être c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on, on vit ce qu'on découvre comme cancer, comme un moment à traverser. Et on veut pas le traverser sans Dieu, quand on est clair avec
lui. Et on est aidé.
On est aidé.
Brigitte Valade, on va finir avec vous, si je puis dire. Donc, je rappelle, vous êtes membre donc, de LCE, donc adhérente de ce mouvement. Vous, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas concernée directement par le cancer.
Non.
Voilà. Qu'est-ce qui vous a conduit sur le chemin de LCE? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre ce mouvement?
Alors, en fait, j'étais hospitalière au Rosaire depuis... 6 ou 7 ans.
Donc hospitalière, c'est en gros tous ces...
Voilà, être dans une salle et s'occuper des malades pendant le pèlerinage. Et il se trouve que j'avais une très chère amie, Hélène, qui malheureusement nous a quittés depuis, qui m'a parlé, est allée à Lourdes Cancer Espérance, m'a parlé de ce pèlerinage. Et j'ai eu le désir de l'accompagner, c'était en 2007, donc il y a 12 ans. Et j'ai découvert un autre pèlerinage, sans faire de comparaison, qui m'a donné envie de continuer sur ce chemin de Lourdes Cancer Espérance.
Et puis voilà. Vous aviez fait une promesse à votre ami, non aussi, vous
m'avez J'avais fait une promesse, en effet. Et il se trouve qu'en même temps, j'ai commencé à être bénévole en aumônerie, ici, tout à côté, puisque c'était à Claudius Rigaud et à Saint-Justin-Thurier. Donc il y a eu un chemin parallèle d'accompagnement, ce qui m'a aussi aidée et donné envie de continuer dans cette association
Alors, qu'est-ce qu'on y fait quand on n'est pas soi-même malade? Comment vous envisagez votre rôle? C'est quoi? Juste une présence fraternelle?
Alors, je ne suis pas malade, mais malheureusement, dans ma famille, depuis, j'ai eu pas mal de personnes qui sont parties de cette maladie cruelle. Je pense qu'accompagner, en passant à la santé, on dit ad, vers, cum, avec, et panier, c'est le pain. Voilà. Donc, c'est partager le pain, un compagnonnage. Que le pain soit doux ou qu'il soit dur. Donc, je pense que ça résume assez bien, en effet, ce chemin qu'on essaie de faire avec les personnes, là où elles en sont, comme nous le disions tout à l'heure, pour les aider le plus possible à traverser ces épreuves. Donc, ce sont des petits gestes, des petits mots qui peuvent être quotidiens. Ce sont des choses très matérielles, c'est-à-dire...
C'est une présence au long cours, en tout cas.
Au long cours.
Vous n'êtes pas présente qu'au moment du pèlerinage annuel.
Non, c'est-à-dire qu'une fois que le pèlerinage est passé, on a pris souvent des contacts avec des nouveaux adhérents. Donc, on a à cœur de les accompagner durant tout le long de l'année pour pas qu'ils restent seuls. Ça se traduit par vraiment des choses très différentes, parfois très matérielles, parfois spirituel aussi.
Très matériel, c'est quoi? Aller faire les courses pour aider les gens, garder les enfants
Pas garder les enfants, mais aller faire en effet les courses, pouvoir les amener, les accompagner à la messe, parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu loin d'une église. Je crois qu'il y a quelque chose d'important, et on en parle aussi dans le cadre de la pastorale de la santé, c'est le parcours de soins. Voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus, ce souci qui est de plus en plus actuel, c'est-à-dire que de suivre la personne... quel que soit le lieu de séjour où elle réside. Donc
le parcours de soins, c'est quoi en fait?
C'est l'attention
qu'a le corps médical de...
Voilà, le parcours de soins, c'est la personne de plus en plus reste un temps réduit à l'hôpital et va aller après en soins de suite ou revient à domicile. Et le souci de la pastorale santé, c'est de savoir, de pouvoir accompagner, quel que soit le lieu de séjour de cette personne, de continuer à l'accompagner. Et l'accompagnement, il est total, il est spirituel, il est global. On essaie de prendre la personne dans sa globalité physique, morale, spirituelle. Donc, je pense que cet accompagnement au niveau, notamment de l'ordre de cancer, espérance, comme de tous les... Parce qu'au rosaire, c'est la même chose, de tous les pèlerinages, c'est ce souci d'accompagner la personne et de la suivre sur son chemin. Voilà.
L'accompagnement intégral, comme
intégral,
on pourrait dire.
Global.
Aussi, c'est un mot aussi qu'on retrouve dans d'autres réalités de la vie chrétienne. Me vient peut-être une dernière question, alors je vous la lance, et puis qui veut saisir la balle au bon. Au fil de cette émission, je pense que ça peut être le sentiment aussi des auditeurs, on a l'impression à la fois qu'il y a un sentiment d'impuissance et en même temps qu'il y a une grande force. C'est probablement quand on se rapproche de Dieu comme ça qu'on touche les plus grands paradoxes aussi. Est-ce que c'est un peu ce que vous vivez aussi? C'est-à-dire que vous vous sentez à la fois très démuni et en même temps très fort au sein de LCE, Hélène Serloten?
Oui, on se sent démuni parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut rien faire. On est dans l'accompagnement, on est dans l'écoute. Nous, tout au long de l'année, on essaie de faire des rencontres pour que les adhérents se connaissent, pour qu'ils s'entraident, ce que disait Anne tout à l'heure. Donc, ces rencontres sont très importantes. Et puis après, avec l'équipe pastorale, avec Brigitte, avec l'équipe de prière, le groupe de prière, on continue à accompagner les malades au jour le jour. Alors, c'est des textos, c'est des mails, c'est des coups de fil, ce sont des visites. Mais tout cet accompagnement en dehors du pèlerinage, il est très, très important.
Père Pagès, puissance, impuissance, qu'est-ce que vous diriez? Impuissance ou puissance, pour finir?
Des enfants dans la main de Dieu. Un enfant est toujours fragile et Dieu est un père, je l'ai dit. Je rejoins aussi la pastorale de la santé que je connais bien pour y avoir exercé des responsabilités. Mais je crois aussi que la personne n'est propriétaire. C'est-à-dire que les soins de suite et tout ce parcours de santé qui était évoqué, c'est que on accompagne sur un chemin. Et que la personne peut aller de force en faiblesse sur ce chemin. Et qu'on est témoin de ça. Alors, on résout pas, on ne s'emballe pas avec la force et on ne résout pas la faiblesse. On est dans ce cheminement. Voilà. Et que autant les aumôniers, les équipes d'aumônerie dans les hôpitaux ou autres lieux sont un moment, autant LCE peut être un moment. Mais ce à quoi nous veillons, c'est ça. C'est que la personne puisse entendre sur son cheminement de vie que d'autres peuvent l'aider, peuvent être à côté.
C'est vrai, je peux préciser qu'elle peut nous aider à continuer à vivre. Voilà.
Oui, les pèlerins reviennent de ce pèlerinage avec peut-être pas une espérance, mais une force.
Une force, oui.
Eh bien, merci beaucoup. Quelques informations pratiques pour finir cette émission. Donc, le pèlerinage, j'ai oublié de le dire, c'est donc du 17 au 21 septembre prochain. Vous pouvez encore vous inscrire. Un numéro de téléphone 06 64 21 83 54. Je rappelle 06 42. Ça n'est pas le teasing du répondeur. Voilà, c'est un téléphone portable, ce sont des choses qui arrivent, mais vous voyez, tout est gai, même la sonnerie des téléphones à LCE, 06 64 21 83 54, je rappelle, 06 64 21 83 54, il y a une revue aussi de Lourdes Cancer Espérance, voilà, sur laquelle vous pouvez trouver de nombreuses nourritures humaines et spirituelles, et deux livres peut-être pour finir, un site internet, alors le site internet, je laisserai les gens taper dans leur moteur de recherche Lourdes Cancer Espérance, parce que le site est un peu compliqué, deux livres. Marie de Henzel, Une vie pour se mettre au monde, beau livre sur ce sujet, et Cher amour de Bernard Giraudot. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur votre site internet ou votre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.